Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
6 morts à Grenoble depuis le début de l'année. Un adolescent décédé jeudi à Poitiers dans une fusillade entre bandes rivales. Un homme tué par balle à Valence le lendemain. Aucune région n'est épargnée par les violences liées au trafic de drogue. Le 26 octobre, près de Rennes, c'est un enfant de 5 ans qui a été grièvement blessé lors d'un règlement de compte dans le quartier de Maurepas, plongé dans l'insécurité avec l'arrivée des dealers.
Au départ, c'était 2 ou 3, quoi, c'est tout. C'était calme. Et progressivement, c'est arrivé en nombre, quoi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'en sortira, quoi. Ça rapporte trop d'argent.
Jusqu'à 25 à 100 000 euros par jour sur certains points de deal. Le narcotrafic générerait en France plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. En déplacement à Rennes vendredi, le ministre de l'Intérieur a promis une guerre sans merci contre les trafiquants.
Aujourd'hui, les narcotrafiquants ne connaissent plus de limites. Et moi, je vois bien d'ailleurs, sur le territoire français, des narco-enclaves qui sont en train de se constituer. Il faut faire de la lutte, de la guerre, du combat contre les narco-racailles, une vraie cause nationale.
Bruno Retailleau souhaite qu'une nouvelle loi anti-narco soit examinée au plus vite. Un parquet national anti-stupéfiant, sur le modèle de l'antiterrorisme, pourrait voir le jour, tandis que des députés appellent à des mesures radicales. La prison pour les consommateurs.
Nous voulons pouvoir appliquer des courtes peines comme dans d'autres pays. La consommation de drogue, ce n'est pas une récréation.
Ou l'armée envoyée dans les quartiers.
On devrait tester aussi le mix entre de la police nationale, police municipale et des militaires pour envoyer un véritable électrochoc dans ce pays.
Alors comment lutter contre la violence du narcotrafic et l'augmentation de la consommation de drogue? La France se retrouve-t-elle aujourd'hui face à un point de bascule?
Nos 3 invités pour ce débat, Gilles Leclerc, bonsoir. Vous êtes ancien patron de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Vous avez été préfet de police à Marseille. Et en Corse, dernier ouvrage, L'œil du crime, chez Michel Lafond. Et selon vous, plus aucune commune en France n'est épargnée par le narcotrafic, que ce soit dans les campagnes ou dans les petites villes. Il y a quelques années, on parlait d'économie souterraine à ce propos. Maintenant, il faut parler d'économie parallèle. À côté de vous, Clotilde Champérache, bonsoir, économiste, maîtresse de conférences au CNAM. Votre dernier ouvrage, Géopolitique des mafias, est paru au Cavalier Bleu. Selon vous, l'accessibilité aux drogues a fortement augmenté depuis le Covid, mais les consommateurs ne sont pas les seuls responsables. Si la cocaïne arrive massivement en Europe, c'est parce que nos ports ne sont pas suffisamment contrôlés. Et Frédéric Ploquin, bonsoir, vous êtes écrivain et journaliste, spécialiste du grand banditisme, dernier essai coécrit avec Joe Peraldi, Confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC chez Fayard. Selon vous, les trafiquants, notamment les plus jeunes, identifie de plus en plus aux figures des cartels de la drogue, c'est-à-dire à un modèle basé sur l'ultra-violence décomplexée. S'il y a un point de bascule, a priori, selon vous, c'est celui-ci. Et on démarre avec le mot du jour.
Oui, mexicanisation, voilà le mot employé par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour frapper les esprits sur le point de bascule, dit-il, auquel est confrontée la société française. Autrement dit, des cartels tout-puissants face à un État débordé. Frédéric Ploquin, pour vous, ce mot est justifié aujourd'hui ?
Quand on écoute vraiment ce que dit le ministre de l'Intérieur, il le dit au futur.
C'est un risque de mexicanisation.
Oui, sera sur le voie de la mexicanisation. Alors, je ne sais pas s'il connaît bien le Mexique, mais il y a encore de la marge. Au Mexique, il y a encore de la marge. C'est-à-dire qu'au Mexique, l'appareil d'État est totalement infiltré par les cartels. Au Mexique, la moitié de la police est corrompue et tous les 2-3 ans, on purge et on vire la moitié des policiers, mais ça recommence quand même. J'espère qu'il n'a pas cette image-là de ses policiers, des policiers français, parce qu'on n'en est pas du tout là, même s'il y a des cas de corruption. Donc je pense qu'il y a une exagération dans le propos, mais en même temps, ce n'est pas son bilan, hein, c'est celui de Darmanin, de son prédécesseur. Donc il arrive, il dit mexicanisation. Je pense que dans 2 ans, s'il reste un certain temps, il ne fera pas forcément le même bilan. Ouais.
Gilles Leclerc, sans plaquer les situations effectivement d'un continent sur l'autre, d'un pays sur l'autre, qu'est-ce qu'il y a en France de ce qui s'est passé au Mexique selon vous ?
Déjà, il faut comparer ce qui est comparable, parce que bon, on est un pays consommateur, on est un pays producteur, donc il y a effectivement une production en hausse, mais bon, de plus en plus massive, hein, qui est liée en grande partie d'ailleurs à la banalisation des stupéfiants par les médias. Vous êtes responsable, comme nous le sommes aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans la société, maintenant, c'est banalisé. Donc, on a On a, bon, mexicanisation, c'est un petit peu dur, mais effectivement, on a les prémices, et depuis pas mal de temps d'ailleurs, plus que des prémices, d'équipes qui se comportent un peu comme le font certains cartels d'Amérique du Sud.
Clotilde Champérache, il y a aussi effectivement la corruption d'agents publics, d'agents privés, qui peut faire penser à cela en France. Il y a bon, de premiers procès qu'on a vus, y compris avec des élus locaux.
Oui, alors on est quand même, encore une fois, très loin de la situation mexicaine. Hein, le niveau de
on peut rappeler aussi au niveau des morts.
Au niveau des morts, le Mexique, c'est 30 000 par, oui. morts par an liées au narcotrafic. Donc, fort heureusement, on n'en est pas là. Et c'est une violence qui est indiscriminée au Mexique. C'est-à-dire que tout le monde tombe sous les balles des narcotrafiquants, aussi bien d'autres narcotrafiquants que la population civile, que des juges, des journalistes, des hommes politiques. Donc, tout le monde est potentiellement dans la ligne de mire des narcotrafiquants. Là, on n'en est pas. Là, en France, heureusement.
Il y a des indices. Disons que l'ultra-violence des jeunes, c'est un premier indice. La manière dont eux, comme vous le rappelez, s'identifient aux figures des cartels et comment cette mythologie des cartels est en train de s'imposer dans les quartiers aujourd'hui. Donc l'ultra-violence, je disais. La communication aussi, les cartels mexicains communiquent. C'est-à-dire ils font des campagnes de pub parfois pour aller recruter des militaires, par exemple. Ils mettent des affiches, ils disent aux militaires « Lâchez l'armée, vous serez mieux payés avec nous ». Ils communiquent, ils ont des poètes qui chantent leurs louanges. Ici, on a des rappeurs qui chantent aussi des louanges. Vous voyez, il y a quelque chose de similaire là-dedans. Et il y a une espèce de... Pour moi, ce qui les rapproche le plus, c'est la manière dont ils s'exhibent. Il y a un exhibitionnisme, c'est-à-dire que la violence, non seulement ils l'exercent, mais ils la filment et ils la montrent. Et quand on voit la DZ Mafia, ce gang qui s'expose...
Le gang de Marseille,
et qui, tout d'un coup, fait une conférence de presse façon FLNC, imitant le FLNC, masqué, en noir, etc. C'est nous, là. Il y a une volonté de communiquer, de terroriser, de dire qui ils sont. Et ça, en Amérique latine, c'est extrêmement fréquent. Il y a ce culte de l'image du chef de gang, avec les tatouages qu'il y a derrière, etc. Donc il y a cette adhésion. Ça fait déjà beaucoup d'indices, plus les tueurs à gages.
Oui.
Alors là, si on parle de point de bascule, c'est assez nouveau. Les tueurs à gages très jeunes qui sont apparus sur le territoire français nous signalent là qu'il est en train de se passer quelque chose. Et c'est vraiment propre à la Colombie, au Mexique, au Salvador, dans ces pays-là, c'est très développé.
Gilles Leclerc, on peut joindre ce qui se passe au niveau, effectivement, du narco-banditisme et certaines méthodes du terrorisme. Certains spécialistes font le lien avec l'usage d'armes lourdes.
Oui, de toute façon...
Et vous-même, qui avez été en poste...
Là, on voit bien quand même qu'on est en train... Le point de bascule, je ne sais pas si on y est, mais on n'en est pas loin quand même, parce que on a de plus en plus de cités avec des petits patelins ou des petites villes comme Guéret ou comme...
Enfin, je veux dire, dans la ruralité
où il y a toute une économie qui fait vivre des gens. Donc on arrive petit à petit finalement à ce que la drogue soit un modèle économique parallèle.
En Europe également, Clotilde Champérache, on voit les Pays-Bas, on entend souvent parler de ce problème aux Pays-Bas, avec y compris la princesse héritière de la famille royale qui a dû s'exiler en Espagne parce qu'elle était menacée par la mafia de la drogue aux Pays-Bas. On n'en est pas là, est-ce qu'on peut comparer les situations avec nos presque voisins européens ?
Il y a des ressemblances dans le sens où effectivement la violence a explosé un peu dans toute l'Europe. Après, le terme de mafia ne me paraît pas du tout approprié. Et c'est justement là qu'il y a peut-être un point de bascule, mais dans le mauvais sens pour les organisations criminelles. C'est-à-dire que là, on a des jeunes qui effectivement s'identifient au cartel, aux séries aussi, qui ont mis en avant certaines figures des cartels. Et ces cartels sont globalement en perte de vitesse en partie sur le trafic de stupéfiants. C'est-à-dire qu'avant, on avait la cocaïne, alors que les stupéfiants, c'est beaucoup plus large que ça. Mais pour la cocaïne, c'était l'Amérique du Sud, les cartels qui géraient toute la chaîne d'approvisionnement, qui était très puissant. À l'heure actuelle, ils produisent la matière première, la coca, mais ils ne la transforment plus forcément et ce ne sont plus eux qui la cheminent et qui la vendent en Europe. Donc les modèles gagnants ne sont pas forcément dans le monde du crime les modèles les plus violents. Et là, il y a peut-être une erreur qui est faite à trop vouloir mettre l'image avant l'activité économique illégale qui, elle, fonctionne mieux quand il n'y a pas de violence parce que, justement, ça n'attire pas l'attention des autorités. –
Il y a aussi un point de bascule au niveau du vocabulaire, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est en train de passer quand même d'une période de déni à une période où on met des mots sur les choses, mais avec un petit peu de surenchère chez les politiques. Mais est-ce que ce n'est pas mieux qu'au moins ce soit dit ? C'est-à-dire quand on voit des magistrats Marseillais en place, procureur, qui devant la commission sénatoriale ose dire publiquement des choses qu'il nous disait à nous, journalistes, clandestinement dans un bistrot, ose le dire publiquement. Je veux dire qu'il y a aussi un point de bascule dans l'identification de ce qu'on a en face de nous. Et quand un procureur à Marseille en poste dit « Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre asymétrique et nous ne sommes pas la partie gagnante et le rapport de force n'est pas en faveur de l'État », je trouve ça intéressant parce que ça fait réfléchir. Après, vous avez différentes manières de digérer ça. Le ministre de l'Intérieur actuel, le nouveau, a l'air de... Voilà, d'en rajouter encore un petit peu, mais au moins les choses sont nommées.
Justement, paradoxalement, cette violence, elle est salutaire parce qu'elle oblige à réagir, alors que les trafics, ils sont là depuis des années. Les Pays-Bas ont laissé couler les stupéfiants, ils ont laissé entrer, ils le savaient, ça fait des années que l'alerte était lancée aux Pays-Bas. Ils ont réagi quand il y a eu des victimes dans la sphère, dans la société civile.
Alors, à propos de réaction, on va évoquer avec vous trois et avec Fanny ce qui s'est passé il y a 6 mois, quand le gouvernement Macron a lancé l'opération ClasseNet dans plusieurs ville de France, quel est le bilan de cette opération censée tenter de juguler ce narcotrafic ?
Bien, souvenez-vous de ces images, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, ministre à l'époque, qui était à Marseille en mars pour y lancer en grande pompe l'opération ClasseNet XXL, des opérations menées aussi dans d'autres villes de France, notamment Dijon, Nantes, Lyon ou encore Lille. Dès le mois de mai, le Sénat déplorait dans un rapport un bilan décevant, c'est le terme utilisé. Aujourd'hui, au bout de 6 mois, bien, ce bilan il est toujours mitigé. Certes, des centaines d'opérations ont été organisées en quelques mois, avec plus de 10 000 policiers et gendarmes engagés, plus de 2 000 interpellations, mais aussi la saisie de centaines de tonnes de cannabis, de dizaines de kilos de cocaïne et d'héroïne, saisie aussi d'armes et de véhicules. Mais les policiers déplorent des opérations inefficaces dans la durée, faute d'un travail de fond au niveau judiciaire, disent-ils, car une fois que les opérations ClasseNet sont terminées, bien, les trafics, les réseaux se réorganisent. Des points de deal démantelés se déplacent dans des quartiers de voisins de là où ils étaient et des dealers continuent le trafic en ligne via des applications de messagerie. Autre problème, d'après l'un des préfets qui a été impliqué dans ces opérations, cité par nos confrères du Figaro, comme ces opérations ne durent qu'un temps, eh bien, il faut revenir et revenir encore. Et cette stratégie-là, dit-il, est coûteuse en effectif. À Marseille, le syndicat de la magistrature qualifie même les opérations ClasseNet d'opérations Pichenette, je cite, c'est-à-dire un court-termiste et insuffisante. Gilles Leclerc, vous qui avez vraiment eu les mains dans le cambouis, si je puis m'exprimer ainsi, ces opérations ClasseNet, elles sont peut-être imparfaites, mais en même temps aussi, elles sont utiles aux riverains. Je veux dire, il y a quand même elles ont le mérite d'exister, ne serait-ce que pour leur offrir une tranquillité.
Bon, tout ce qui peut gêner les trafiquants, c'est toujours bon à prendre. Mais effectivement, la meilleure méthode, c'est quand même de travailler en profondeur. Et dans la durée, contre les trafiquants et contre les têtes de pont pour démanteler les réseaux. C'est sûr que là, c'est un peu comme déplacer la poussière quand on fait le ménage, vous voyez. Vous avez l'impression que c'est propre, mais bon, le samedi suivant, vous pouvez recommencer. Donc en fait, ça fait partie des mesures qu'on peut mettre en place pour montrer que déjà qu'il y a la police sur le terrain. Donc pour les riverains, pour les gens qui sont un petit peu en insécurité, ça, c'est positif. Mais ce ne sont pas des enquêtes de fond contre le trafic de stupes.
Voilà. Le chef de l'office anti-stupéfiant dit d'ailleurs que le nombre de points de deal a diminué ces 5 dernières années, passant de 4 000 à 3 000. Alors évidemment, chacun a intérêt de dire que son action est efficace, mais Clotilde Champérache, il y a aussi eu une évolution dans le mode de vente des stupéfiants, avec beaucoup plus de recours aux messageries cryptées ou à la vente en ligne ?
Tout à fait. Alors, la messagerie cryptée, c'est le nouvel outil qui s'est développé pendant le Covid. Et je pense qu'on a fait un mauvais diagnostic au moment du Covid. On s'est réjoui trop vite. Il n'y a plus de points de deal, donc il n'y a plus de drogués. C'est évidemment absurde, surtout pour des substances qui sont addictives. Donc la personne qui veut sa drogue, elle va la trouver. Et à ce moment-là, les trafiquants ont réussi à diversifier leur offre. Donc ils ont maintenu des points de deal parce que pour certains, c'est la façon de s'approvisionner facilement. Mais ils ont développé aussi des points de deal mobiles. Et c'est ce qui permet de toucher aussi la ruralité. Et puis toute cette offre en ligne qui s'appuie maintenant sur un marketing extraordinaire et qui n'est pas visible dans les rues. Donc là, les opérations ClasseNet, elles n'identifient pas ces choses-là. Et en plus, ça désinhibe le consommateur. C'est-à-dire que la personne qui avait des réticences à aller dans un point de deal dans une cité qui craint un peu, bah là, il est livré à domicile ou sur son lieu de travail ou dans un lieu qu'il détermine avec le livreur.
Une forme d'ubérisation de...
Tout à fait, et une facilité d'accès.
Disons que je crois que le Covid a contribué à ringardiser le point de deal d'une certaine manière, parce que on y allait moins, on n'y allait plus, on était visible quand on y allait au point de deal, puisqu'il n'y avait personne dans les rues. Donc ça a permis, comme ils sont très, très réactifs, ces trafiquants, ça leur a permis de développer d'autres méthodes. Et finalement, ils sont assez bons sur le plan commercial, ils sont plus puissants et plus réactifs que les services publics dans les campagnes, ils vont plus vite partout, là où il faut. Donc effectivement, ils ont toujours un temps d'avance en réalité.
Gilles Leclerc, l'une des solutions qui est mise en avant, c'est de frapper au porte-monnaie les trafiquants. Mais comment on fait concrètement pour le faire quand ils cachent leur argent dans les paradis fiscaux ?
J'allais en parler parce que bon, non seulement ils sont effectivement dans les moyens modernes numériques, mais bon, le trafic, enfin le blanchiment se fait aussi sur le darknet avec du bitcoin, etc. Donc il y a toute une facette, je dirais, basique, où on peut effectivement essayer d'attaquer sur vos portefeuilles, notamment ceux qui en profitent. Je me souviens d'opérations qu'on a faites dans les boutiques de luxe à Marseille, où on attendait que les dames qui allaient acheter des beaux sacs ou des belles robes ressortent pour les interroger sur la justification de leurs ressources. Donc, il y a aussi tout un écosystème de gens qui profitent, notamment dans les grandes villes où il y a des points de deal importants, qui profitent de la vente de la drogue a posteriori. Donc bon, ça c'est une manière aussi de travailler contre le blanchiment, c'est d'essayer aussi de dire à la bonne société, attention, vous n'allez pas être impuni tous les jours. Mmh. Bon, après, les modes de blanchiment d'argent...
Non, et quand ils habitent à Dubaï, voilà, et lorsque les chefs de gang vivent à Dubaï, voilà, comment fait-on ?
Voilà, c'est un problème de coopération internationale.
D'accord. Elle existe ?
De plus en plus, mais pas tout à fait, pour qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire.
On part visiblement de très loin en la matière, notamment avec Dubaï, effectivement. Frédéric Ploquin, vous avez vu que la commission d'enquête parlementaire du Sénat sur cette question propose de créer une procédure d'injonction pour richesse inexpliquée. Ça veut dire que concrètement, quand vous avez un revenu déclaré qui est bien inférieur au train de vie que vous affichez, vous êtes convoqué pour... expliquer d'où vient ce train de vie.
La méthode existe déjà, les textes existent déjà pour le faire. Mais c'est vrai, pour poursuivre ce que disait Gilles Leclerc, c'est vrai que pour un trafiquant de stupéfiants, c'est plus ennuyeux de perdre 1 million d'euros en espèces qu'une tonne de produit, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, le produit, il ne vaut pas grand-chose. Le produit, la tonne de cocaïne, on se gargarise comme ça à chaque fois qu'on fait des saisies, mais à la production, ça vaut 1 centime le kilo. Enfin, ça ne vaut rien. C'est une plante sauvage qui pousse, une plante endémique. Comme ça, ça ne vaut rien. Ça ne vaut que parce que c'est transporté jusqu'au consommateur.
Kilo de coke.
Au départ, en Colombie. Oui. Et 30-40 000 ici. Donc, ça ne vaut que parce que ça a été transporté. Donc, effectivement, l'idée d'aller leur demander de justifier leurs ressources, c'est une idée. Mais la plupart, en fait, mettent leur liquidité à l'étranger. C'est-à-dire, dès qu'ils ont la possibilité de mettre une frontière ou deux frontières, moi, j'ai rencontré des jeunes guetteurs de 14-15 ans, j'ai rencontré une fois jeune guetteur de 14-15 ans en Seine-Saint-Denis qui m'a dit qu'il était déjà propriétaire de crêperie dans son pays d'origine, qui était aux Aïa. Il avait déjà plusieurs crêperies comme ça, etc. Et il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Donc là, c'est aller chercher ça là-bas, ça va être ça.
Alors justement, il y a aussi la question de l'emprise du trafic de drogue au-delà des réseaux sur une partie de la population. Écoutez à ce titre le sénateur Étienne Blanc. Il est rapporteur de cette commission d'enquête au Sénat sur le narcotrafic. Il décrit, lui, des scènes qui lui ont été racontées au cours des auditions.
Quant au tribunal de Valence, le président du tribunal lui dit « Attendez, nous, on rend des décisions. Il y a 300 personnes qui sont à la porte du tribunal, qui hurlent, qui font pression. » Ça peut être faire une pression sur la justice. C'est l'affaiblissement de l'institution judiciaire. Quand il y a un greffier qui, par un manquement, par un retard, va provoquer une libération, je veux dire, c'est l'institution judiciaire qui est fragilisée. Alors la question qui se pose, est-ce que l'État en a pris la mesure ?
Voilà, est-ce que les institutions sont en train de plier, notamment l'institution judiciaire, Clotilde Champérache, quand on entend ce témoignage ?
Le problème, c'est que justement, on parle d'enquête de long cours, d'enquête patrimoniale pour pouvoir confisquer les biens des criminels qui n'ont pas de justification légale. Il faut des enquêtes patrimoniales, il faut une police judiciaire forte, bien dotée.
Il y a suffisamment de monde pour, pour faire ça ?
Non, alors déjà, la police judiciaire, elle a subi quand même des réformes qui ne l'ont pas valorisée. C'est aussi assez ingrat de faire ces enquêtes qui mettent beaucoup de temps, qui demandent aussi de connaître des mécanismes économiques, financiers qui parfois font peur par manque de formation tout simplement. Et puis bah, c'est une filière qui a du mal à recruter parce que bah, ce n'est pas celle qui est la plus attirante et ce n'est pas celle qui est forcément le mieux valorisée en termes de carrière non plus. Donc vraiment, entre les opérations PlaceNet et investir sur la police judiciaire, pour moi, le choix est vite fait.
Et par ailleurs, Gilles Leclerc, le rapport montre aussi des chevauchements entre services, entre juridictions, pour lutter contre le trafic de drogue. Est-ce que la création d'un parquet national anti-stup, comme il existe un parquet national antiterroriste, fait partie des solutions ?
Bah, je ne sais pas. Honnêtement, on a le parquet spécialisé Juralco pour le crime organisé. Ce que je sache, le trafic international de stupéfiants, c'est du crime organisé. Donc si on juxtapose...
Mais vous, ancien préfet de police, vous n'avez pas eu justement des chevauchements comme ça, des difficultés d'un service à l'autre ?
Non, c'est toute une question de coordination, ça, c'est pas... Moi, j'ai pas cette histoire de gens qui se regardent de travers, la guerre des polices, tout ça, j'ai jamais connu, moi, dans ma carrière. C'est juste un problème de coordination entre les acteurs.
Mais ce qui est clair, juste là-dessus, sur la justice, c'est qu'il manque on manque cruellement en France de procureurs. Les parquets sont faibles, mais ça sert à rien non plus de recruter 300 procureurs si on renforce pas la police judiciaire sur le terrain.
On a créé des cours d'assises.
Si on forme pas des policiers, justement, pour travailler sur ces questions de blanchiment.
On a créé des cours d'assises spéciales.
Pas spectaculaires, ultra-techniques, pas spectaculaires.
Alors, on évoquait tout à l'heure, vous évoquiez le narratif par rapport à ces gamins et à ce qui les fait rêver. Parmi les références citées par les trafiquants de drogue, justement, il y a la figure de Pablo Escobar, un criminel sanguinaire, mais qui a été considéré par certains comme étant le Robin des Bois colombien. Regardez, en témoignent ces scènes en Colombie, donc le jour de son enterrement, le 3 décembre 1993, c'était Medellín.
Scène d'hystérie collective pour un enterrement bâclé. Abattu jeudi par la police, inhumé vendredi à Medellín, Pablo Escobar n'a pas eu droit à une véritable cérémonie. Le cercueil de celui que des milliers de Colombiens considéraient comme un deuxième Robin des Bois a été pris d'assaut par la foule. Une foule exaltée, impossible à contenir, décidée à rendre coûte que coûte un dernier hommage au chef du cartel. L'armée et la police avaient pourtant prévu des renforts, c'était compté sans la popularité d'Escobar. Face aux 10 000 personnes, face au chaos et aux bousculades, le service d'ordre n'a pu que protéger la famille du trafiquant.
Face à cette héroïsation, Frédéric Ploquin, que vous évoquiez, il y a une bataille culturelle à mener. Alors Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, annonce une campagne de communication pour mettre les consommateurs face à leurs responsabilités. On a l'impression que bon, ça peut être un peu
c'est
gadget.
Clair. Juste une anecdote, quand il est arrêté en 2010, le surnommé Tic à Marseille, qui va fonder 10 ans plus tard la DZ Mafia, quand il est arrêté en 2010, c'était il y a déjà longtemps, pour avoir cramé dans une voiture, assassiné, exécuté, cramé dans une voiture, deux de ses amis qui avaient, on va dire, l'inconvénient de diriger le point de deal voisin qu'il voulait récupérer, quand il a été arrêté par la police, la première chose que j'ai lue, moi, sur les PV, parce que maintenant c'est 2010, on peut les lire, c'est « Mais je ne suis pas Pablo Escobar », il dit. Et quand il dit ça... Il dit tout, c'est-à-dire qu'en gros, dans cette phrase, il dit « mais j'aurais aimé ». Il fait 10 ans de prison, il sort, et en 2020, il crée la DZ Mafia, qui est depuis devenue la franchise marseillaise.
Comment on lutte contre ce mythe ?
Ben effectivement, là, ça veut dire que quand on est aujourd'hui, quand on a des tueurs à gages qui sont en classe de 3e, on comprend bien qu'on a perdu un combat culturel aussi. Et que là, il y a un gros travail à faire. Quand la maîtresse est beaucoup moins valorisée, finalement, en classe de 3e, ou le professeur, que Pablo Escobar ou Tony Montana. Ouais. Parce qu'en fait, les modèles, Starface, c'est ça. Ils se prennent, effectivement, pour ça.
Clotilde Champerrache, responsabiliser le consommateur, on l'entend beaucoup, c'est quelque chose de pertinent. Pour qu'ils comprennent jusqu'où peut mener leur consommation ou leur addiction.
Si on veut briser une chaîne, c'est pas le dernier maillon qu'il faut démolir, il faut taper au centre. Là, le consommateur, alors surtout, encore une fois, si on a interdit ces produits, c'est parce qu'ils sont addictifs. Donc le consommateur qui est addict, on peut toujours lui dire que le joint a le goût du sang, ça ne lui parle pas. Lui, il a besoin de sa dose. Donc ça, c'est... Et puis, je voudrais quand même dire qu'on culpabilise le consommateur, mais on oublie de regarder ailleurs. La corruption, ce n'est pas le consommateur. Les ports dans lesquels on ne contrôle pas les marchandises, ce n'est pas le consommateur qui l'a demandé. Mais tous les ports, on contrôle le maximum 2% des containers. C'est rien du tout. Évidemment que c'est une aubaine pour les trafiquants. Et on est quand même dans une économie, alors en France et ailleurs, où dans le PIB, on intègre au calcul du PIB le trafic de stupéfiants. Or, qu'est-ce qu'on dit aux étudiants ? Le PIB, c'est la valeur créée par la nation.
Merci, et merci pour cette conclusion absolument glaçante. Merci d'avoir participé à ce débat. À tous les trois.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.